radio vivante. Qui vous fait vivre des trips à Vegas,
wow! Oui, c'est moi!
New York, San Francisco pour voir du baseball, du hockey, puis qui vous envoie un peu partout pour assister aux shows de vos bandes préférées.
Et quelqu'un à avoir quelques années de radio derrière la cravate, moi je me souviens pas d'avoir vu quelque chose d'aussi démentiel.
Puis qui organise même un show privé dans notre building pour voir Papa Roach. Pour tout ce qui se passe de gros, il y a Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
102.1.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Ce soir, 60 minutes en compagnie de Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile. On va passer un bon début de soirée, j'en suis persuadé. Samuel Tremblay-Michaud, salut!
Hello, hello!
Très content de te voir. Tu conduis-tu à clutch, toi, ta génération? Ça conduit-tu à clutch?
Est-ce que ma génération conduit à clutch? Je crois pas, mais moi, je conduis à clutch.
Oui?
Ben oui, j'ai juste eu des voitures manuelles dans ma vie à
date. T'aimes ça?
J'adore ça. Ben, à vrai dire, vois-tu, j'ai acheté mon nouveau véhicule d'été pour le plaisir. Je l'ai eu un trip. Puis celui-là est automatique. Mais pas pour les performances, c'est juste qu'il n'existait pas en version manuelle. Fait que c'est juste pour ça. Mais sinon, j'ai juste eu des voitures manuelles.
Ça tend à disparaître. Là. Je parlais avec un de mes chums, Mathieu, sur l'heure du midi, puis il me disait que le Wrangler 2025, il va être à la clutch. Moi, c'est une bonne nouvelle. Là. Moi, j'en ai un Wrangler, il est à la clutch.
Ouais.
Et des gens qui embarquent dans ma voiture, on dit hey, Colin, t'as un véhicule à la clutch. On dirait que pour une génération, ça, la clutch n'a jamais existé.
Oui, absolument. Puis c'est un des meilleurs antivols qui existe. Il y a plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux des voleurs aux States qui essaient de voler des voitures, puis ils rentrent dans le char, là, ils cassent la fenêtre, puis ils sont dans l'auto, mais pas capables de le décoller.
Ah, mais tu vois, j'avais pas vu ça sous cet angle-là.
C'est un antivol intéressant aussi. Mais oui, la transmission manuelle a été longtemps plus avantageuse que les transmissions automatiques, tant au niveau de la consommation de carburant que le sentiment de conduite. Il y a des nombreuses années que c'était vraiment la manuelle était le choix à prendre. Parce que tu sais, on avait des vitesses, des 3 vitesses automatiques ou des 4 vitesses. Ouais. J'ai même eu un Subaru Impreza 2009 avec une automatique à 4 vitesses dans ma vie. Vois-tu, c'est mon deuxième char automatique finalement. Et c'était Barney dans les Simpsons. J'ai jamais vu un char boire du gaz comme ce Subaru Impreza-là. Ça, écoute, c'était épouvantable comment la transmission m'aidait pas à économiser sur mon essence. Puis aujourd'hui, ben, c'est un peu l'inverse qui se passe. Les transmissions automatiques n'ont jamais été aussi performantes. Là.
Ouais. Puis quand tu prends une voiture sport exotique un peu, là, je veux dire, c'est les transmissions qui sont dedans vont être toujours meilleures que toi qui est ta transmission manuelle.
C'est toujours un peu le ratio entre la puissance, la performance puis les statistiques versus ton plaisir à toi. Moi, j'ai toujours aimé conduire une voiture manuelle. Je pense que c'est un peu une maladie de tous les journalistes automobiles aussi. Là. On aime les transmissions manuelles parce que tu as un contrôle sur le véhicule qui est assez exclusif. Mais je suis capable d'avouer sans problème qu'il y ait des transmissions automatiques qui me donnent une rince en termes d'accélération. J'ai bien beau donner mon cœur et mon ouvrage à ma transmission, j'arriverai jamais à battre une PDK chez Porsche ou une double embrayage chez Volkswagen avec la DSG. Là, c'est des transmissions qui vont extrêmement rapidement et qui sont capables d'exploiter pleinement la puissance des véhicules.
Ouais, mais c'est la sensation de conduite, comme tu l'as dit. Puis dans la neige, on va se le dire, quand tu es pris dans la neige avec une transmission manuelle, c'est un charme. Transmission automatique, avance, recule. Il y a pas de truc.
Non. Puis, tu sais, manuel aussi, tu sais, tu tombes en panne, tu peux mettre ça sur le neutre, tu peux le pousser.
Oui.
J'ai toujours mieux aimé ça. Tristement, il y a énormément de modèles qui avaient des manuels qui ont disparu et ça continue de disparaître comme ça. Par contre, j'ai lu une étude au début de l'année 2024 qui parlait que la génération actuelle des plus jeunes conducteurs ont un regain envers la transmission manuelle. Pas assez pour la sauver, là. C'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va du jour au lendemain sauver toutes les transmissions manuelles, mais ça fait partie peut-être d'une solution parce que le côté nostalgique de la conduite, un peu comme les vinyles dans l'univers des CD, c'est revenu fort. Et là, on voit que les hipsters, là, t'sais, les jeunes qui veulent être un peu différents, hein, qui veulent avoir un look qui... J'ai dit ça comme si j'avais comme 25 ans de plus qu'eux, là, mais t'sais, dans le fond, ma génération, il y a des gens de ma génération qui trouvent ça plus intéressant d'avoir le petit côté nostalgique de la conduite manuelle. Puis on a vu un gain des ventes aux États-Unis. Je parle des States parce que c'est vraiment important. Si eux rachètent la manuelle, on va en avoir peut-être ici aussi. Donc, on se croise les doigts, mais tu sais, l'annonce du Jeep Wrangler, c'était juste logique. Ça prouve aussi que le modèle est en fin de vie. Là. Je veux pas faire... Ah ouais. Tu sais, je veux pas, mettons... Ben, dans la formule actuelle, tu sais, Jeep va jamais se débarrasser du Wrangler. Là. C'est comme si les pingouins se débarrassaient de Sidney Crosby. Tu sais, comme tu peux pas vraiment faire ça. Là. Un jour, ça va arriver. Mais clairement, le Wrangler va se transformer. Okay. Et Jeep assume ouvertement qu'ils vont présenter prochainement. Là. Ça fait déjà 2 ans qu'ils en parlent. Mais on devrait être bientôt là, dans les dates de lancement d'un 4x4 électrique. Pas un all-wheel drive avec une capacité électrique. Là. Vraiment avoir un vrai 4x4. Là, maintenant, comment on va le faire? Est-ce que ça va être fiable? C'est quoi les stats? J'ai rien à vous dire là-dessus. Mais tu sais, Jeep en parle beaucoup. Puis au bout de la ligne, il y a une transition qui se fait. Donc là, tu sais, en 2025, on garde le 6, on met une manuelle dedans. C'est pour nourrir les gens qui aiment le modèle au maximum. Puis ils vont étirer la sauce là, jusqu'à temps qu'ils ne peuvent plus le faire. Mais tu sais, dites-vous une chose, c'est que s'ils font ce genre de transition-là, c'est que le modèle, il va changer drastiquement dans okay. les prochaines années.
Ah, c'est une intéressante observation que tu nous fais part. Puis, tu sais, moi, c'est l'expérience de conduite. Juste quand je prends le véhicule à ma blonde, ça fait comme je viens de sortir de mon camion, là, je prends le véhicule à ma blonde, puis elle, c'est automatique. Là, je trouve tellement que c'est plate de conduire automatique.
Ah ouais, puis il y en a, tu sais, les CVT, là, les boîtes à variation continue. Là.
Oui.
Ça, c'est une autre abomination pour les gens qui aiment conduire.
Ben, c'est une transmission qui est extrêmement vache. Là.
C'est extrêmement vache. C'est terrible au niveau du sentiment de conduite. Ça a plein de belles qualités. Puis c'est drôle, dernièrement, j'ai conseillé à quelqu'un qui est propriétaire d'un Honda CR-V hybride, qui est un produit qui est souvent critiqué parce qu'il est cher. Là. Il arrive extrêmement cher, mais qui, en termes de construction, est très solide. Là. C'est une bonne mécanique. Puis c'est dur de se tromper. Puis la personne n'a pas été chanceuse, je pense, parce qu'elle a commencé à avoir des problèmes sans arrêt avec son véhicule. Puis, tu sais, pour elle, les statistiques jouent vraiment contre la situation actuelle, ce qui me pousse à penser que c'est un Citroën parce qu'on n'entend pas parler de ces camions-là habituellement. Et la personne en train de magasiner, elle ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle va faire. Je garde-tu mon CR-V hybride, je ne le veux plus. Puis elle m'a dit qu'est-ce que je pourrais regarder d'autre. Ça devient dur. Là. Je ne te renverrai pas vers un RAV4 hybride parce que c'est pas la même qualité de construction, c'est pas la même qualité de roulement non plus. Je préfère de loin le CR-V. Donc là, j'ai dit, ben, on va voir chez Mazda. T'sais. On a sorti le CX-70 dernièrement. VUS aussi qui a une hybridation légère. Donc c'est plus axé sur la performance que sur l'économie. Mais la conduite, le raffinement, la construction du véhicule, c'est vraiment intéressant. Puis la personne allait essayer le véhicule, le CX-70, puis il n'y a pas une CVT, c'est une transmission automatique. Puis la personne m'a dit, ça donnait des coups, j'aimais pas ça, j'ai vraiment pas aimé la conduite. Fait qu'on voit que les gens commencent tranquillement à s'habituer aussi au CVT, tu sais, dans le sens de le côté très linéaire. C'est vrai que c'est doux une CVT. Quand on pousse pas ça, puis qu'on fait juste accélérer normalement, c'est très doux une CVT, on sent pas grand-chose, on a même quasiment l'impression que le moteur travaille pas, tu sais. Ça amène ce genre de lot de qualité-là, ça amène une bonne consommation d'essence aussi. Mais quelqu'un qui me dit que la conduite d'un CX-70 est moins intéressante qu'un CR-V hybride, c'est parce que clairement, on n'a pas les mêmes goûts de conduite.
Non, la transmission CVT, tu t'en rends compte, là, dès que tu fais une entrée d'autoroute, il faut que tu ailles chercher ta vitesse. C'est compliqué, c'est long. À un moment donné, ça arrive, mais c'est compliqué, c'est long. J'ai vu une autre nouvelle passer, puis ça m'a rappelé des souvenirs. Tu as une meilleure mémoire que moi pour ce qui est des véhicules, mais moi, je... Tu sais, les Fiat 500, quand ils sont arrivés
oui.
au Québec,
oui, oui, oui.
Y a une dame qui, à tous les jours, était sur les réseaux sociaux en parlant des déboires de sa Fiat
oui.
500. T'en souviens-tu?
Oui, je m'en souviens très bien.
Cette dame-là était hystérique. Ma Fiat 500!
Oui,
elle
oui,
était
oui.
hystérique. Puis là, bon, on annonce que les Fiat 500, ça va être terminé.
Mais là, dans le fond, la Fiat 500 est partie pendant quelques années. Ouais. On l'a vu disparaître de mémoire en 2017. Là, je vois de mémoire vraiment parce qu'on n'a pas renouvelé le modèle à essence au Canada, mais on a réimporté le modèle électrique cette année. Donc, on a amené le modèle électrique uniquement au Québec. D'ailleurs, Québec et la Colombie-Britannique, on est les deux marchés
ah ouais.
qui ont reçu les premières unités parce qu'on achète des véhicules électriques. Puis la Fiat 500 revenait un peu en mode « Hey, on est là, une voiture électrique, une capacité grosso modo 280 km là, dans les meilleures conditions, ce qui n'est pas mauvais pour un véhicule de ville qu'on rebranche le soir. Petite batterie, fait recharge rapide au bout de la ligne. Quand on a un bon chargeur, ça va quand même assez vite. Un prix autour de 32 000 avec les subventions. Là, fait que c'était un des véhicules les moins chers électriques. À vrai dire, c'était le véhicule le moins cher électrique sur le marché. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les gens n'ont pas d'appétit pour ce genre de grosseur de véhicule-là et de performance-là. Les ventes ne suivent pas.
Quand il y a un buzz comme ça sur les réseaux sociaux, elle, là, ça avait créé un buzz. Elle était tellement hystérique qu'elle se disait « Tabarouette, t'as fait passer toutes les Fiat 500 pour des citrons. » Ça paraît-tu sur les ventes?
Ben, la Fiat 500 de cette génération-là qu'on parle, là, qui est arrivée au Québec, c'était une génération qui a été connue pour plusieurs problèmes. Là, des problèmes de rouille aussi, des problèmes de moteur, des problèmes de transmission, des problèmes électriques. On a connu des hauts et des très, très bas là, avec ce véhicule-là. Il n'y en a plus beaucoup sur les routes, d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais des fois, quand tu vois la quantité qu'on a vendue de Fiat 500 versus ce qui reste sur les routes, ça donne envie de se poser des questions, là, parce que clairement, il y en a plusieurs qui ne sont plus en circulation. Donc, il y a eu des problèmes majeurs avec la Fiat 500, ce qui a fait en sorte qu'effectivement, elle traîne cette réputation-là. Mais dans le scénario actuel, on avait complètement refait le modèle. À vrai dire, c'est un modèle électrique maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Fait qu'on n'a plus du tout les mêmes moteurs, plus du tout les mêmes groupes motopropulseurs. On n'a plus rien qui est comme l'ancienne génération. Là. 100% un nouveau véhicule, toujours la petite bouille sympathique de la Fiat 500 que les gens aimaient quand même bien. Là. D'ailleurs, elle s'appelle la 500E, c'est le titre qui est là. Puis effectivement, là, je pense que l'idée de l'introduire au Québec puis en Colombie-Britannique pour commencer, bien, c'était pour voir si le marché allait élever un peu. Puis ils n'ont pas réussi à atteindre les objectifs, ça traîne des cours.
Okay. Ça doit être des fois le cauchemar des constructeurs quand ces véhicules-là qui sont pas... Mettons, je sais pas, moi, tu prends une batch de véhicules que ça tombe ça à être des citrons, quand ça tombe dans les mains des influenceurs ou des chroniqueurs auto qui disent « Non, non, t'es peu, là. Moi, j'ai assis ce véhicule-là, j'ai été trois fois en panne, je l'ai renvoyé au garage, puis là, il faut que je retourne au garage. » Ça doit être une catastrophe pour les constructeurs.
Oui, puis en même temps, c'est correct si ça arrive parce que ça arrive, dans le fond. C'est quand même une bonne chose quand ça arrive dans les mains des chroniqueurs ou des journalistes automobiles. Il y a juste une chose, par contre, qui est évidente. Quand un problème est fréquent sur un véhicule, on va le savoir. Comme peu importe là, que je l'aie entre les mains, le citron, ou que je l'ai pas entre
vous
les mains.
Vous pouvez pas vous cacher. Non. On va le savoir.
On va le savoir.
Et on va le dire.
Ouvertement, et je suis le premier à faire des articles, des vidéos pour les pointer, ces véhicules-là. Même des fois, des observations personnelles qui me poussent à poser des questions. T'sais, des fois, je vois des véhicules, je suis comme, ben voyons, donc c'est un 2018, le coffre est rouillé, c'est-tu fréquent? Puis là, je vais voir d'autres modèles. Puis là, je vais voir les mêmes générations, voir les mêmes années. C'est quoi qui se passe avec le coffre? C'est-tu un exemplaire pourri ou c'est parce que clairement il y a une répétition qui se fait puis c'est un défaut de fabrication, tu sais. On va le savoir au bout de la ligne qu'on soit dans une bâche de citron ou non. Puis tu sais, les véhicules au bout de la ligne, j'ai vraiment pas pitié envers aucun constructeur. Le fait juste construire mieux les chars, là, ils n'ont jamais été vendus chars de même. Le fait rendu là, justifie le prix, là, pas juste la COVID. Là.
Des fois, on se pose des questions parce que c'est une chaîne de montage. Là. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un véhicule sur 90, sur 100 sort tout croche? Tu sais,
c'est vendredi 4 heures, quand il faut qu'il sorte.
T'as-tu vraiment cette impression-là?
Oui, oui, 100%. 100%. Vraiment, il y a encore beaucoup d'humains hein, dans les usines de fabrication. Puis il y a des chefs de nuit, des usines qui roulent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Puis ça se peut absolument que le véhicule, vers la fin, que ce soit dans les derniers. Fait que la vérification, mettons, qu'on en fait du véhicule, elle ne soit pas aussi solide, là, fait qu'on oublie quelque chose, on passe à côté d'une mauvaise procédure ou, justement, parlant de procédure, on a lancé une chaîne de montage. Puis c'est pour ça qu'on conseille toujours aux gens, puis je suis le premier à le dire puis à le faire, achetez toujours les fins de génération. Achetez jamais le début d'une nouvelle génération. Acheter le début d'une nouvelle génération, ça veut dire c'est d'acheter aussi le début de la chaîne de montage. Ça veut dire que le constructeur n'a fait aucune amélioration, puis clairement, il va en avoir des améliorations, comme dans toutes les histoires de montage. Il y a toujours un moment donné, OK, moi, cette procédure-là n'était pas si bonne qu'on pensait, est mal appliquée, le robot fait mal la soudure, qu'on la fait moins bien qu'on pensait. Fait que faut qu'on revoie les paramètres du robot qui soude, puis on va revoir aussi la fin de la vérification. On va changer telle pièce, changer telle affaire. Puis ça, ça se fait au fur et à mesure que la génération du véhicule avance. Fait qu'au départ, on part avec une recette qu'on pense qui est bonne. Puis souvent, on la corrige au fur qu'on avance. Fait que c'est toujours préférable d'acheter une fin de génération parce qu'on est sûr que là, bien, les constructeurs ont apporté le maximum d'amélioration à leur véhicule pour avoir un véhicule qui, à la fin, devrait avoir corrigé tous les bobos. Puis c'est ça qu'on veut. On veut un véhicule qui n'a plus de bobos le plus possible.
Exact. Hey, c'est un bon truc que tu donnes là. Je n'avais jamais pensé à ça.
Pour vérifier les générations, là, allez voir sur des sites. Je vais prêcher ma paroisse, là, mais sur rpmweb.ca. Ouais. Vous écrivez dans la barre de recherche Subaru Impreza 2014. Mais là, vous allez voir, nous autres, on vous dit c'est quoi la génération. Là. On va dire, OK, c'est entre deux. Celle-là, c'est entre 2012 à 2017. Ils ont construit une génération là-dedans. Parfait. Là, je vois, OK, que 2013-2014, ils ont eu des problèmes avec les moteurs 2 litres. Ils ont explosé un par un. Ah, c'est parce qu'ils ont corrigé la chaîne de montage en 2014, puis en 2015, puis ça devenait vraiment plus sérieux vers la fin de la génération. Jusqu'en 2016, là, on avait de quoi qui était beaucoup plus sérieux avant l'arrivée de l'autre génération. Fait que c'est toujours des trucs comme ça que vous pouvez faire pour magasiner. Puis souvent, moi, ce que je préfère dire aux gens, c'est allez vous chercher un véhicule qui a peut-être moins de technologie dernier cri, mais qui a été mieux construit.
OK, parfait. Est-ce que ça t'a surpris de voir l'augmentation d'achat des véhicules électriques? Bon, là, les subventions s'en vont de plus en plus, là. Est-ce que ça t'a surpris?
33 911 véhicules électriques vendus dans le dernier trimestre au Québec. Là. C'est avril, mai, juin.
C'est majeur.
C'est gigantesque. À vrai dire, c'est du jamais vu au pays. Là. Comme on a vraiment acheté beaucoup de voitures électriques. Ça prouve plein de choses. Pour répondre à ta question initiale, est-ce que je suis surpris? Non, pas du tout. Je m'attendais à ça. Avec la fin des subventions qui arrivent tranquillement, on le savait. Je mets des bémols, hein. On parle de fin de subvention, mais on va commencer par une première coupe de subvention. Là. Fait qu'on va perdre une partie du rabais. Au lieu d'avoir un 7 à 8 000, on va avoir plus un 4 000 de rabais dès janvier 2025. Donc, il y a des gens qui, et c'est pour ça que ça ne me surprend pas, des gens qui ont pris le temps de faire leur magasinage. Tu sais, on parle en marketing des early adapters, là, les gens qui achètent rapidement des nouvelles technologies. C'est eux que le iPhone 16 arrive en magasin, sont dans le line-up puis ils l'achètent. Tu sais, comme ça, c'est ces gens-là qui aiment les nouveautés, qui aiment les nouveaux gadgets, ont été la première grosse vague d'achat de véhicules électriques au Québec qu'on a vu dans les dernières années. Puis ça, c'est des gens qui étaient friands de nouvelles technologies, qui avaient les moyens aussi, parce que c'est des véhicules qui étaient quand même onéreux au bout de la ligne, et qui avaient envie de vivre ce trip-là. Moi, j'ai toujours dit à beaucoup de gens qui m'écrivent, conduire une voiture électrique, c'est se payer un trip. C'est se payer un trip technologique avant de viser de l'économie. Parce qu'au prix que le véhicule est, si vous me dites que votre objectif principal, c'est sauver de l'argent, là, gardez votre char.
Exact.
Gardez-les, mettez des réparations dessus puis enlevez-vous un paiement. C'est toujours facile de dire, moi, je veux sauver de l'argent parce que je ne mettrai plus de gaz à tape, là, avant d'arriver à compenser la différence de coût entre un modèle de base à essence et un modèle de base électrique. Il y a des années-lumière de travail à faire entre les deux. On sait que les assurances sont souvent plus élevées. On sait aussi que les véhicules électriques sont plus lourds vu qu'ils ont des planchers de batterie, donc consomment plus de pneus également. Fait que dans l'équation de calcul, là, si l'objectif principal, c'est de sauver de l'argent toujours, là, ça devient difficile à rentabiliser. Ça prend vraiment beaucoup de kilomètres par année. Ça prend un profil de conducteur aussi qui va avoir des assurances plus balancées un peu. Puis ça prend aussi c'est une mission, là. Il faut vraiment se mettre en mission de vouloir sauver des sous. Là, ça se peut. Il y a des gens qui sauvent des sous avec leur véhicule électrique, ça, j'y crois. Mais quand on regarde après ça, qu'est-ce qui s'est passé dans l'achat des véhicules, bien, là, on est touché à une autre catégorie de gens qui, eux, ont pris le temps d'analyser un peu plus. Puis se sont dit, OK, là, moi, je suis prêt. Je pense que, justement, ces calculs-là, je les ai faits. Je pense que j'arrive à avoir un prix qui a du bon sens. Mais tous ces calculs-là ont été basés sur le fait que le plein rabais existait. Donc là, on arrive dans une belle conjonction où les constructeurs ont réussi à rattraper beaucoup de retard. On le sait que la province du Québec, en Amérique du Nord, s'est développée une belle expertise en termes de voitures électriques. Les constructeurs, maintenant, le considèrent, le savent. On parlait de la Fiat 500e, qui est un exemple parfait, dont on l'a introduit seulement ici, parce qu'ici, on achète des véhicules électriques. Donc là, les constructeurs ont fait, bien là, on sait que le rabais de Québec va disparaître à un moment donné. On va aller fouler les cours des concessionnaires avec tout ce qu'on a de possibilités parce qu'il y a des véhicules qui traînent dans des cours ailleurs. On va les prendre, on va les envoyer au Québec et on va avoir une disponibilité des produits. Fait que là, tu mixes ça avec l'espèce d'anticipation de calcul qui a été faite de « OK, si je perds mon rabais, là, je vais peut-être moins sauver sur mon achat, je suis mieux d'en profiter tout de suite. » Le taux d'intérêt a commencé à descendre un peu aussi. Fait que là, les taux d'intérêt ont commencé à descendre et là, ben là, les véhicules étaient disponibles d'un coup. Fait que là, quand tu mets tout ça ensemble dans la poutine, je ne suis pas surpris qu'il y ait eu autant de ventes. Il y avait des gens qui étaient vraiment prêts là, à faire le saut, mais qui leur manquait juste le petit coup de pied pour le faire. Puis on dirait que la diminution du rabais, c'était ça qui leur manquait pour dire « OK, là, je ne perdrai pas ça. » J'y vais, je me lance dans l'aventure, je suis prêt. Puis là, ben, les gens l'ont fait.
Puis est-ce qu'on sait vers quel type de véhicule ils se sont pitchés? C'est-tu les Mustang E?
C'est les classiques. Hein? On tourne toujours dans cette loupe-là, mais Tesla a vendu énormément de modèles 3.
Ça m'a surpris, ça, parce que je me disais, tu sais, Elon Musk est tellement dans la politique ces temps-ci.
Ouais.
Il fait tellement parler de lui. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des gens qui vont dire, ah ben moi, Elon Musk, c'est fini. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, là, des gens qui voulaient attirer l'attention. Moi, honnêtement, si le véhicule est un véhicule incroyable, peu importe qui est en haut, je veux dire, je vais l'acheter, le véhicule. Là. Elon Musk n'a pas agressé sexuellement des enfants. Il a juste appuyé un parti politique ou un homme politique. Là.
Non, puis tu sais, ça, c'est rendu juste une question de valeur d'achat. Là. Si pour toi, mettons, ça n'a pas d'impact, il n'a pour qui ça n'a, mais est-ce que c'est significatif? Non, là, je pense pas qu'il y a vraiment une communauté de gens qui ont fait « OK, à cause qu'Elon Musk a dit ça, j'achèterai plus les voitures. » Je pense que c'est une petite partie de la population, mais c'est pas une majorité, clairement.
C'est souvent des artistes, ça.
J'imagine. Puis il y a vraiment ce volet-là qui est fort, mais tu sais, il y a des produits forts comme la Hyundai Ioniq 5 qui reste un des produits très, très populaires actuellement. Ah ouais. Tout ce qui est de Kia EV6 aussi fonctionne bien. Volkswagen a de la difficulté à écouler les ID4, les ID4. Donc, ils ont quand même été agressifs sur les rabais.
Tu t'expliques ça comment? Que Volkswagen ne soit pas capable d'écouler ce produit-là.
Je vais peut-être être cru pour certains, mais le produit n'est pas tant à la hauteur que ça. Là.
Ah non?
Non. Okay. Fait que, tu sais, je trouve plutôt dispendieux pour qu'est-ce qu'ils nous donnent au bout de la ligne. La fiabilité est hasardeuse quand même. Puis je pense que là, ils ont fait une mise à jour pour 2025 là, qui s'en vient. Ça va faire du bien. On a revu l'intérieur, on a changé certains éléments. Puis, je pense que ça va faire grandement du bien, ce produit-là. Mais je pense juste que l'attractivité, quand tu le compares à d'autres... j'irais avec un Ioniq 5N ou un Tesla Model 3 avant un Volkswagen ID4.
Les véhicules d'occasion. Bon, il y en a qui aiment ça acheter des véhicules neufs. Moi, j'ai toujours acheté des véhicules d'occasion. J'ai toujours eu l'impression que si je m'achète un véhicule neuf, je vais le payer pour rien. Puis dès que je vais sortir de la cour, ce véhicule-là va valoir beaucoup moins cher.
C'est le cas d'ailleurs. T'es pas fou, là.
Fait que je préfère prendre ces véhicules d'occasion-là. Y a-t-il des véhicules qui ont la cote dans les véhicules d'occasion? Est-ce que c'est tout le temps Toyota qui trône ou Toyota est en train de se faire détrôner?
Écoute, on va mettre de quoi au clair. Clairement, Toyota, Honda, là, c'est des classiques qu'on parle souvent. C'est des constructeurs qui ont une réputation béton dans le véhicule d'occasion et je ne serai pas lui qui va dire l'inverse. Souvent, c'est des constructeurs qui ont... On parlait de chaînes de montage un peu plus tôt, qui ont gardé des chaînes de montage extrêmement longtemps. Donc, on n'a pas changé des générations souvent. C'est plus tard de voir des nouveaux modèles. Tu vois aussi que vers la fin de vie des modèles, t'es comme, tabarouette, ils sont en retard. Il manque d'équipement, il manque de ci, il manque de ça. Mais le produit a fait ses preuves au niveau de la fiabilité mécanique. Puis Toyota est très conservateur à ce niveau-là. Donc, oui, généralement, ça devient une bonne idée d'acheter des produits Toyota Honda dans l'usager. Attention à quelque chose, par contre. Ça dépend toujours de l'entretien qu'on a eu sur ces véhicules-là et surtout au niveau de la carrosserie de ces véhicules-là. Quantité de gens que je vois acheter des Toyota, parce qu'ils disent « c'est une Toyota, je ne me tromperai pas », et vous n'avez pas tort, au niveau mécanique, vous ne vous tromperez pas. Mais quand on voit le produit qui est rouillé, percé, dangereux là, pour la sécurité des gens, c'est pas parce qu'il y a un logo Toyota en avant que votre voiture vaut encore 10 000 $ là. Il y a un peu une secte aussi autour de ces véhicules-là. Là. Des fois, on voit des autos qui ont du 250 000 kilos, qui sont rouillés puis que les gens payent plus cher qu'une équivalence coréenne dans les mêmes années qui, OK, est moins fiable mécaniquement, mais que si brise, vous ne coûtera pas une fortune non plus à réparer, mais qui au moins, au niveau de la carrosserie, est encore saine. Parce que souvent, vu que les budgets sont différents entre les deux puis que le prix de valeur de revente est moins élevé, on peut peut-être sauver quelques années. Donc, je prends la Corolla versus l'Elantra, mais peut-être qu'avec le même budget, vous pouvez vous acheter un Corolla 2009, mais que vous allez avoir un Elantra 2014 dans le cours. Puis là, la voiture a quand même sauvé 5 hivers dans sa vie versus la première. Fait que ça se peut que la rouille soit moins pognée dedans. Là. Puis moi, je prône toujours, vous êtes mieux de vous acheter des problèmes mécaniques un peu plus fréquents que des problèmes de rouille, parce que de la rouille, ça se répare pas et vous n'avez pas les budgets pour le faire.
Tu conseilles-tu un anti-rouille à chaque année pour
le
véhicule?
Moi, je le fais. Ouais. Chaque année. Mes trois véhicules, là, chaque année, sont passés dans l'antirouille. Puis je le conseille fortement. Je conseille aussi les produits de protection, là, les comme de pellicules qu'on peut mettre sur le véhicule. Là, souvent, il y a une marque, la marque 3M, là, qu'on parle souvent, là, qui est un peu comme le saran wrap à voiture, si vous voulez, là, qu'on peut mettre sur le capot, sur les ailes des véhicules, sur les miroirs, sur le dessus du pare-brise. C'est tous les endroits où il y a des éclats de roche qui peuvent arriver d'un autre véhicule en avant de vous. Il faut savoir que la qualité de peinture des autos est en diminution chaque année. Fait qu'on, ben, pas chaque année, là, mais qu'on voit une tendance quand même dans le marché. Là. Je ne veux pas être alarmiste non plus, là, mais on voit une tendance où la peinture est de moins en moins épaisse sur les véhicules, puis il y a des constructeurs qui jouent fort avec ça pour sauver des coûts. Donc, quand on met ça dans l'équation, on se dit, ben là, j'ai des roches qui volent sur mon char l'hiver, ma peinture est moins élevée, puis j'ai mis aucune protection. Mais vous allez avoir une poque qui va se faire, il y a de la rouille qui va se développer dedans, parce que la peinture va avoir écaillé, va avoir levé. Puis là, ben, votre véhicule, vous venez d'y enlever plusieurs années de vie, parce que la rouille, ça se répare pas. Je vais me répéter, là. Ça se répare, là. Il y a des carrosseries qui vont vous le faire, là, mais vous n'avez pas l'argent pour faire ça. Là. Ça coûte cher, là, faire réparer de la rouille. C'est extrêmement dispendieux. Fait que dans l'équation, ça vaut beaucoup moins cher de faire un traitement anti-rouille chaque année. Rendu là, j'ai même pas envie de prêcher pour une paroisse plus qu'une autre. Moi, je vais chez Crown, c'est le magasin que je vais. On me demande pourquoi des fois je vais là. Ben, parce que j'ai lu une étude de l'armée canadienne qui ont testé les produits anti-rouille sur les véhicules de l'armée. Puis l'armée canadienne a fait une grosse étude pour savoir c'est quoi les produits qu'elle allait mettre sur leurs véhicules en hiver. Puis ils ont choisi la marque Rust Free, qui est une marque de produits qui est vendue principalement dans l'Ouest canadien pour la plupart de la flotte. Mais à deux points d'intervalle dans l'étude, c'est Crown qui est là, en numéro 2. Puis Crown fait la partie Est des produits, des véhicules de l'armée. Fait que là, après ça, je ne sais pas si c'est encore le cas, ça fait quelques années cette étude-là, mais moi, pour moi, c'est assez clair. Il y a une étude qui me dit que c'est un excellent produit, je le prends. Les anti-rouilles métropolitaines de ce monde font des très belles jobs aussi. Si vous avez quelqu'un de confiance qui peut vous en faire un pour un bon prix, puis que vous avez confiance en cette personne-là, faites-le. Moi, je vous conseille juste d'en faire un, peu importe votre allégeance, peu importe le produit que vous préférez. Là. Le seul que vous devez jamais faire, c'est l'anti-rouille électronique. Là. Ça, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. C'est un scam. On essaie de vous voler avec ça. Achetez jamais un anti-rouille électronique. C'est des outils de survente qu'on a des fois dans les concessionnaires. Puis c'est malhonnête, à mon humble avis. Là. Le principe est simple. C'est un anti-rouille qui est installé sur le véhicule, qui est supposé de créer une espèce de vibration à travers la carrosserie de l'auto. Là. Parce que ça fait comme des impulsions. Là. Puis l'idée, c'est que si on fait vibrer les composantes du véhicule, bien là, la saleté va se dégager par elle-même, elle va tomber. Fait qu'on n'accumulera pas de la saleté à travers le véhicule. Sur un bateau, mettons, là, qu'un paquebot, je peux y croire, là, parce que à la grandeur du véhicule, bien là, le paquebot va mieux distribuer l'énergie puis l'électricité qu'on envoie. Mais une voiture, c'est rempli de composantes. Là. Il y a des couettes de fil, il y a des pneus qui vont annuler un peu l'effet de l'anti-rouille. Là. Fait que ça fonctionne vraiment pas tant bien que ça. À vrai dire, ça fonctionne pas du tout. Installez pas ça.
On le voit tout de suite sur un véhicule usagé qui a été traité versus un véhicule usagé qui n'a jamais été traité. Tu la vois tout de suite, la différence.
Ben oui.
Au même titre que, bon, ça, c'est un autre sujet, mais quand tu pognes un char des États-Unis versus un char du Québec, tu as l'impression qu'elle tient au Québec il y a 10 ans de plus, c'est... alors que, tu sais, eux autres, ils ont cette chance-là de ne pas avoir de neige, de ne pas avoir de calcium.
Mais il y a la fameuse Rust Valley qu'on appelle dans le haut des États-Unis, là, tout ce qui est New Jersey, Boston, le haut, parce qu'on l'appelle la Rust Valley parce que c'est les seuls endroits aux États-Unis où ça rouille. Les chars rouillent, il n'y en a pas ailleurs vraiment. Fait que ça paraît, eux, ils ont d'autres défis. Là. J'arrive de la Californie, puis tu vois des Honda Accord 90 là, en parfait état. Là. Ils n'ont aucun probo, ils sont tous beaux. Mais eux autres, la peinture. Eux autres, c'est de la peinture. Le soleil tape beaucoup sur les peintures, fait que tu vois les voitures décolorées. Mais tu sais, honnêtement, j'aime mieux un char qui décolore qu'un char qui pourrit. Là. Si j'avais à choisir entre les deux, clairement, je prendrais le climat de la Californie.
Tu sais, on parlait tantôt des véhicules usagés, puis les ventes, à quel point ça coûte moins cher. Mais ce qui me surprend tout le temps, c'est quand je vais chez Marketplace, à quel point il y a des gens qui ont l'impression que parce qu'ils l'aiment, cette voiture-là, ça a un prix. Tu sais,
ouais.
Cette voiture-là vaut 5 000, mais toi, tu l'aimes, elle vaut 7 000.
Oui.
Puis là, ben, tu dis, salut, moi, je regardais les autres véhicules. C'était autour de 5 000, 5 500. On peut-tu s'entendre? Non, moi, c'est 7 000. Bon, ben, reste avec, mon homme.
Bonne vente. Bonne chance.
Bonne vente.
Et c'est un peu ça qu'il faut se dire aussi. Tu sais, moi, je suis prêt à payer plus cher pour un véhicule, comme tu as dit, qui n'a pas vu l'hiver. C'est un véhicule qui est entreposé ben oui. Tous les hivers. Un véhicule qui arrive d'ailleurs dans le sud des États-Unis. Un véicule qui a été traité anti-rouille religieusement. Vraiment, tu sais pas, comme moi je l'ai fait en 2007, mais je l'ai jamais refait, donc c'est correct. Là. Non, un traitement anti-rouille annuel. Moi, ça, c'est le genre de produit que... C'est le genre de véhicule que je suis prêt à payer un peu plus cher.
Y a-tu dans le palmarès là, des véhicules d'occasion fiables? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris? Y en a-tu qui étaient fiables il y a de ça quelques années, puis aujourd'hui, ils descendent dans le palmarès?
Il y en a quelques-uns que j'ai envie de pointer du doigt, parce que c'est Consumer Report là, qui est un peu comme le « Protégez-vous ». Des États-Unis. Là. C'est vraiment un organisme à but non lucratif qui va collecter des données et faire des moyennes. Il y a des produits que même nous, chez RPM, on réfère. Et des fois, ça devient dur de justifier, mais quand on a des données comme ça pour le faire, c'est le fun. Et le premier, puisqu'on parle de budget puis de voitures économiques depuis tantôt, je trouve ça important de garder ce filon-là avec les finances actuelles des gens, là. La mienne, les miennes aussi. Là. Il y a un véhicule que je trouve qui est intéressant à considérer si vous cherchez un budget d'en bas de 13 000 $ là, 13 500 $ dans ces eaux-là, mettons, là, pour une bonne voiture fiable, la Chevrolet Cruze de 2016 à 2019. La Chevrolet Cruze est arrivée en première génération au Québec, puis ça a été un remplacement à la Cobalt. Très difficile pour la notoriété du véhicule. On est arrivé avec ça autour de 2012, puis Ça a été une génération qui a eu beaucoup de problèmes. On a eu des problèmes de moteur, des problèmes de transmission, des problèmes de rouille, des problèmes de composantes. Ça a été vraiment là, difficile pour la Chevrolet Cruze de s'implanter au Québec. Et tristement, on parlait de la Fiat 500 au début de la conversation. C'est en fait un peu comme la Fiat 500. Cette réputation-là a fait extrêmement mal à la deuxième génération qui est arrivée, qui était complètement à des années-lumière de la première. Beaucoup mieux construite, avec des meilleures motorisations. Et les statistiques de Consumer Report le prouvent aussi. Pour un budget de 13 500, c'est la championne dans la catégorie des compacts. Parce que, tu sais, exemple, on prend l'équivalent chez Toyota, on va parler de la Civic chez Honda, on va parler de la Corolla chez Toyota. Vous allez payer plus cher que ce montant-là. Fait que si vous voulez avoir un montant plus faible, la Cruze demeure une option super intéressante. C'est en version hatchback en plus, avec une transmission manuelle pour ceux que ça leur tente. Il y avait un moteur 1.4 litres turbo à l'intérieur qui était super économique, qui s'est montré vraiment fiable aussi à long terme. C'est un véhicule que même nous, chez RPM, on réfère sans problème depuis longtemps. Le sweet spot, selon les données, 2017. Si vous avez à choisir un modèle de la Cruze usagée pour sauver des sous, 2017 va être moins cher, puis va être vraiment dans le sweet spot au niveau de la fiabilité également. Sinon, après ça, vous pouvez vous rendre jusqu'à 2019 sans problème avec ce véhicule-là. Et là, vous allez avoir des versions un petit peu plus élevées en termes de prix. Là. C'est là que le prix va augmenter. Mais ça reste une voiture qui était bien équipée, qui a prouvé sa fiabilité à long terme, puis que je référerais sans problème.
Chevrolet Cruze, tu vois, je ne m'attendais pas à ce que tu me sortes.
Vois-tu, c'est une surprise aussi pour moi, dans le sens que j'étais content de l'avoir arrivé là, parce que je l'ai moi-même vendu à quelques amis. Tu sais, des fois, c'est dur entre des voitures et des amis. Hein. J'ai comme toujours un peu peur de me tromper, puis même à tout le monde que je conseille, là, je ne veux pas me tromper. Là, tu sais, j'ai envie que vous soyez content de l'achat que vous faites. Puis, tu sais, je passe du temps à faire des recherches et à faire mes devoirs selon les besoins des gens. Puis, je l'ai vendu à quelques personnes, cette Chevrolet Cruze-là, parce que ça répondait à leur budget. Il y avait aussi des affaires de moi, mon père aime Chevrolet, j'aimerais ça avoir un Chevrolet. Bien, celle-là fait de l'allure dans le line-up. Là. Je l'aime, la Cruze, achète-la. Puis, c'est les gens qui l'ont depuis maintenant 8 ans, leur véhicule, zéro problème, sont super contents, ça consomme pas de gaz. Toutes les fois que je revois ces gens-là, je leur demande, puis, ça va-tu bien? Sont heureux. Fait que c'est un produit que je référerais sans problème.
Est-ce que les marques de luxe garantissent un certain prix? Une qualité?
Non. C'est sûr que, tu sais, dans une marque de luxe, puis ça va dépendre aussi du type de conducteur que vous êtes, vous allez avoir peut-être des conceptions de pièces qui sont différentes puis qui sont poussées pour rendre la conduite plus confortable ou pour augmenter les performances générales des véhicules. En termes de fiabilité, puis ça, c'est une perception qui est vraie, là, mais tu sais, les gens ont tendance à dire que les voitures luxueuses sont pas fiables. T'sais, on pense que c'est jamais fiable. Quand vous achetez une voiture de luxe, faut avoir en tête que c'est un véhicule qui demande de l'entretien également et ça vaut toujours la peine de payer pour avoir un bon entretien sur ce véhicule-là. C'est des véhicules qui peut-être n'ont pas la même durabilité qu'un Toyota Yaris 2008, c'est clair, mais c'est des véhicules qui vont être si bien entretenus, vont être très durables aussi. Je connais plusieurs personnes. Moi-même, je possède des vieilles voitures allemandes. Puis quand on s'en occupe bien de ces voitures-là, au bout de la ligne, ça fonctionne bien. Pour l'expérience de conduite, tu sais, j'ai acheté un vieux Mercedes-Benz 2001. Vite électrique, les bancs mémoire électrique, les bancs chauffants. 2001? Climatisation bizone. j'ai les essuie-glaces automatiques en cas de pluie. Il est en bois à l'intérieur. C'est magnifique, expérience, c'est le fun.
Tout était fonctionnel.
Tout fonctionnel. Tu sais, le véhicule fonctionne à merveille. Puis la personne qui l'avait avant moi, ben c'est quelqu'un qui était extrêmement consciencieux de l'entretien du véhicule. Puis tout est durable dedans. Le même modèle du produit que j'ai acheté avec quelqu'un qui s'en est pas occupé, là, une vidange. J'aurais jamais acheté ça. Là, comme c'est vraiment un produit qui avait été réputé pour avoir des problèmes de rouille, il y a eu des problèmes électriques, des problèmes majeurs au niveau des composantes. Fait que c'était vraiment pas un produit fiable, mais tout va dépendre de l'entretien. Fait que si vous achetez de l'occasion dans le véhicule de luxe, soyez juste conscient de comprendre qui l'avait avant vous. Savoir si la personne avant vous, elle l'a eu pendant une location de 4 ans, est allée pendant 4 ans au concessionnaire faire tous les entretiens, respecter le bottin, j'ai pas de crainte avec ça. Votre mission à vous, par contre, après, c'est de continuer. Les gens qui laissent aller ces véhicules-là, ça va finir par devenir des problèmes. Là, je fais de la généralité, by the way, là, je ne parle pas d'une marque en particulier, whatever. Là, on généralise la catégorie des véhicules de luxe. Il y en a qui sont définitivement plus fiables que d'autres, même dans cette grande catégorie-là.
Nissan Kicks, l'as-tu essayé la Nissan Kicks?
Oui, j'ai essayé le nouveau Nissan Kicks 2025 qui s'en vient, une nouvelle génération du Nissan Kicks d'ailleurs qui va prendre une place importante dans le marché parce que le Nissan Kicks est un produit très populaire au Québec. On en a acheté ici pour plusieurs bonnes raisons. C'était pas nécessairement le produit le plus intéressant au niveau des accélérations, à vrai dire. J'avais même écrit dans mon texte quand je l'avais essayé la première génération, un des véhicules les plus anémiques que j'ai conduit en termes d'accélération, voire dangereuse. Tu sais, des fois, quand tu as une reprise de vitesse à faire ou faut que tu accélères sur l'autoroute parce qu'il faut que tu accélères, le Nissan Kicks de première génération, là, c'était comme le pli au plancher, puis tu pries. Là. C'est un petit moteur 1.6 litres, une CVT qui est là-dedans, on a 122 chevaux. C'était pas quelque chose d'extrêmement puissant. Fait que c'était pas pour ça qu'on l'achetait. On l'achetait parce que c'était un véhicule qui, au bout de la ligne, était très polyvalent, beaucoup d'espace à l'intérieur, s'est montré quand même assez fiable au bout de la ligne et a réussi à prouver sa place par le prix qu'on l'achetait. On avait des versions qui partaient autour de 25 000 $ pour un petit VUS qui se tenait bien visuellement puis qui était assez bien équipé, qui, encore une fois, était assez économique aussi. Donc, la deuxième génération a comme mission d'aider Nissan fortement. Le Nissan a besoin d'aide avec des produits forts. On a des véhicules qui fonctionnent bien dans l'alignement. Je pense à la Sentra qui est trop souvent oublié par le monde. Là. On la boude un peu, la Sentra, pour les mauvaises raisons, parce que c'est un produit au bout de la ligne qui se tient très bien. Mais tu sais, on n'a pas de produit vedette, vraiment. Le Rogue était le produit vedette chez Nissan. Malheureusement, la troisième qui est arrivée, tirée de la patte un peu. On a manqué un peu notre coup là-dessus. On a mis un moteur 3 cylindres à l'intérieur, turbo compressé, qui fait peur à beaucoup d'acheteurs. On a une CVT aussi, puis Nissan et les CVT ne sont pas développés une très belle notoriété pour cause. On a eu plusieurs problèmes de CVT. Même si je vous dis aujourd'hui, puis c'est la même chose pour le nouveau Kicks, que Nissan a refait les CVT. Quand je dis ces trois lettres-là à quelqu'un qui en a vécu une mauvaise, là, qui a eu une mauvaise expérience, c'est fini à vie. Là. Personne veut toucher à ça. Puis Nissan est en train de regagner la confiance des gens, ce qui n'est pas facile à faire. Donc là, on manque un peu d'argumentaire. Et le Kicks est un peu la solution que Nissan a besoin. On n'a plus le Qashqai dans l'alignement, qui d'ailleurs s'appelait le Rogue Sport aux États-Unis, parce que les gens là-bas n'étaient pas capables de dire Qashqai, donc on l'a appelé le Rogue Sport. Et on amène un nouveau Kicks qui a vraiment comme personnalité d'être plus gros qu'avant, d'être un petit peu plus petit que le Qashqai, d'avoir le 4 roues motrices aussi qui n'était pas disponible dans la première génération. On est rendu avec un moteur 2 litres de 140 chevaux. Même si le moteur est plus gros, même si les chevaux sont supplémentaires, ça n'a pas rien changé au niveau des performances. On a une nouvelle CVT à l'intérieur. On nous l'a présenté. On nous a expliqué qu'il y a des nouveaux systèmes de clutch à l'intérieur. On a changé la méthode de refroidissement aussi de la transmission. Au niveau de la sensation de conduite, par contre, c'est vraiment plus relevé que la première génération au niveau de la transmission. Là, j'ai vraiment trouvé ça plus agréable derrière le volant. L'économie de gaz, elle aussi, j'ai fait du 7,8 litres au 100 dans mon essai, ce qui est très louable pour un VUS 4 roues motrices de ce gabarit-là. Ça a tout à fait de l'allure. Ouais. Ça, là-dessus, j'ai trouvé aussi que le roulement était bon. C'est doux, confortable. Les sièges sont confortables. L'habitacle est confortable également. C'est le fun d'être à bord. Donc, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire à part vous dire que c'est un bon choix si vous recherchez de la douceur de roulement. On a d'ailleurs développé le système All-Wheel Drive au Québec. Nissan a amené des prototypes au Québec il y a quelques années avec des ingénieurs, puis ils ont fait des tests en hiver, ici, dans la ville de Québec. On se levait tôt le matin, on allait mettre le véhicule sur la glace, on testait le système. Fait que j'ai hâte de voir si le All-Wheel Drive qui est dedans maintenant va être aussi compétent qu'on nous l'a vendu. Vous comprendrez que je l'ai essayé en Californie. Là. Fait que j'ai pas vraiment pu vraiment le tester, là. Il faisait beau, mais je sais pas trop. Mais théoriquement, on devrait avoir un bon système All-Wheel Drive en plus dessus. Donc là-dessus, ça marche bien. Par contre, on a monté les prix. Tout vient avec aussi une augmentation de prix majeure. On avait un produit autour de 25 000 en première génération. Ouais. Là, on va partir à 29 000 la nouvelle. C'est pas du tout le même véhicule non plus. Il est plus gros qu'il était avant. Puis c'est un peu ça qui m'inquiète. C'est que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné la chance au Kicks parce qu'ils se disaient « Moi, je suis pas prêt à mettre le 4-5 000 de plus pour aller me chercher un Subaru Crosstrek, un Hyundai Kona, un Kia Seltos, un Toyota Corolla Cross, qui sont des ténors de la catégorie. » Et quand on regarde la compétition maintenant que le Kicks est rendu, parce qu'avant ça, le Kicks n'était pas vraiment dans cette compétition-là, il n'y avait pas d'affaires là. C'était plus comme le Kia Soul qui était sa compétition, le Hyundai Venue, qui c'est des petits véhicules citadins. Puis là, il est rendu dans le cours des grands pour vrai. Ils viennent de rentrer réellement dans la cour des grands. De base, autour de 29 000, autour de 30 là, pour une version avec le all-wheel drive, je trouve qu'on reste compétitif quand on le compare au Hyundai Kona 2 litres. Je pense que là, on a vraiment un produit qui est très compétitif, qui est à la bonne place. Par contre, si on commence à l'équiper comme c'était ma version d'essai, qui était la SR Privilège, là, on tombe autour de 39 000 pour ce véhicule-là, qui n'a pas une autre motorisation. On a gardé le même moteur 2 litres, la même CVT. Là, on peut le comparer, par exemple, au Subaru Crosstrek Onix, qui est à 36 000, donc il est à 3 000 moins cher. Là, on a un Subaru intégral avec un moteur 2,5 litres qui a fait ses preuves, un véhicule chouchou au Québec, pour 3 000 de moins. Je commence à trouver ça risqué en termes de prix. Fait que moi, je pense que c'est un véhicule qui devient vraiment intéressant quand on le magasine dans l'entrée de gamme, dans le S ou le SV. Il peut être sur votre liste aveuglément. Je ne peux pas vous parler de la fiabilité à long terme encore, il vient d'arriver, mais le moteur 2 litres qui est dedans, c'est le même 2 litres qu'on met dans le Sentra. Puis on le sait que c'est un moteur qui est fiable. Maintenant, la CVT devra faire ses preuves. Mais au bout de la ligne, je pense que c'est un produit qui est bien armé dans le peloton de départ de gamme. Mais si on va chercher une version trop équipée, oui, on a de l'équipement comme un toit panoramique, un système de son Bose avec des speakers dans l'appui-tête en arrière. T'sais, oui, OK, on a des gadgets, mais pas assez pour dire que ça justifie ce prix-là.
Est-ce que j'ai pensé à toi quand j'étais sur Henri IV, j'étais direction nord, puis j'ai vu un Hyundai, un Santa Cruz. T'as-tu déjà essayé ce véhicule-là, le Hyundai Santa Cruz? Bon Dieu, je le trouve laid.
Ah, les gens l'aiment en plus, les gens qui en ont. Hein.
Les gens l'aiment?
Ah oui, les gens qui en ont.
Ils achètent ça pourquoi? C'est comme, ben, t'as besoin de 4 places, mais t'as besoin comme d'une petite boîte en arrière.
Mais c'est de mettre en lumière le U dans VUS, le côté utilitaire, dans le fond.
Ouais.
Puis c'est un peu une catégorie qui s'est développée dans les dernières années qu'on avait arrivé sur le marché. Ford Maverick, ça dit-tu quelque chose?
Oui, ben oui.
Même principe. Petit camion, capacité de remorquage limitée, petite boîte en arrière.
Mais tu mets quoi dans la boîte? Un bessic à pédale, ça sort en arrière?
Ouais, mais ça, c'est à la mode aussi. Là. Tous les gars qui ont des pick-up mettent une petite bavette sur leur tailgate puis en swing leur vélo. Moi, j'ai toujours l'impression que le monde font ça pour montrer qu'ils ont des vélos de montagne. ça a toujours été moi. Parce que là, tant qu'à ça, mettez-les dans la boîte. Je sais pas pourquoi vous devriez l'accoter sur le tailgate en arrière. J'ai jamais compris ça. Mais
les gens l'aiment, leur Santa Cruz.
Ouais, puis le Santa Cruz est arrivé avec une formule aussi intéressante au niveau de la motorisation. On a quand même un moteur 2,5 litres sur beau compressé qui avance. Là. On a quand même de la sauce là-dedans, en bon français. Là. Ça se déplace bien, la conduite n'est pas mauvaise non plus. Un peu saccadée, par contre, là, j'ai trouvé ça un peu rough, sa conduite. Mais quand on pousse la machine, honnêtement, là, c'est vraiment agréable. Là. C'est vraiment de l'allure. C'est très solide, sa route, là. Vraiment. Puis ça fait penser un peu au Ridgeline chez Honda, qui, lui, par contre, est un petit peu plus pick-up encore. Là. Il est plus pick-up qu'utilitaire, comme le Santa Cruz. Mais tu sais, le Ridgeline, c'est un monocoque. Fait que c'est comme un seul véhicule ensemble avec une boîte. C'est le même principe pour le Santa Cruz versus un pick-up conventionnel qu'on va avoir une cabine en avant et une boîte à l'arrière qui sont séparées. Ça donne la chance, exemple, à des constructeurs comme Ford ou GM de faire des véhicules avec des gros châssis, avec des grosses boîtes, puis on est capable de mettre des plus grosses motorisations aussi qui font des camions de travail hallucinants. Tandis que quand on est dans le monocoque, on va chercher plus du confort de roulement. Ça ressemble beaucoup plus à une conduite d'un VUS que d'un pick-up. Puis entre toi et moi, c'est pas une mauvaise chose tant que ça. Là.
Okay.
C'est agréable.
Mais je trouvais que ça avait l'air d'un avalanche de Wish. Là.
Je peux comprendre. L'avalanche que j'ai beaucoup aimé, moi d'ailleurs, mais qui était très polarisant, un véhicule que le monde n'a pas beaucoup aimé en termes de style. Mais moi, j'ai adoré l'avalanche.
Ah ouais. Mais bref, Hyundai Santa Cruz, sachez que si je vous crois, je vous trouve laid. Mais si vous l'aimez, puis c'est utile pour vous, puis vous l'adorez, c'est
bien
ça
garanti,
qui est important.
En plus. C'est un bon véhicule. Ça.
OK. Hey, on va faire une courte pause, si tu le veux bien. Je vous rappelle qu'on est avec Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile. Vous avez des questions pour nous, c'est le 418-971-1021. On revient tout de suite après la pause.
Marceau, le soir. Samedi, dans le boulevard du Rock et le volume à planche, on souligne les 20 ans d'American Idiot. L'album concept a marqué un tournant pour Green Day, mais aussi pour la scène musicale de l'époque. Millions de copies vendues dans le monde. 2 Grammy Awards. American Idiot n'a pas pris une ride. Boulevard 102.1 souligne 20 ans d'un album qui définit son son.
Ce dimanche 22 septembre, encourage le Rouge et Or. Dès 13h au stade TELUS, où le Rouge et Or affrontera le Vert et Or de Sherbrooke. Viens t'échauffer avec ta gang au tailgate d'avant-match Boulevard 102.1. Plusieurs prix à gagner, cadeaux Boulevard, nourriture et carte cadeau Laurier Québec. De plus, en passant la tente Boulevard, note l'indice du match et tu pourrais devenir finaliste pour le grand prix de 1 000 $ offert par Laurier Québec à la fin de la saison.
On se rejoint dimanche au Stade TELUS.
Go, Laval, go!
Prolongez l'été avec le meilleur de la restauration sur Grande Allée. Un bon cocktail, un tartare, une ambiance incontournable, c'est l'Atelier. Savourez un repas entre amis ou réservez pour votre party de bureau. Et pour une expérience terre-mer incomparable à Québec, c'est au restaurant Ophélia. Laissez-vous séduire par nos plats soigneusement préparés et notre carte de vin d'importation privée. Venez profiter de nos terrasses couvertes et chauffées. L'été n'est pas fini à l'Ophélia et l'Atelier. On se donne rendez-vous sur Grande Allée.
Puis t'achètes-tu un char électrique? Finalement,
je sais pas. On dirait que j'ose pas faire le saut.
Là, tu réalises qu'on est en train de sauter en parachute.
Ouais, c'est un peu ironique, hein?
En plus, l'Equinox EV de Chevrolet a jusqu'à 513 km d'autonomie.
Hein? Marie Wolf!
C'est moi. Puis quand on inclut les rabais gouvernementaux, son prix à l'achat est à partir de 41 061 $.
Ah, ça, c'est rassurant!
Aussi, les membres Costco admissibles obtiennent une prime de 1 200 $. Puis avec ça, là, c'est facile de faire le saut vers l'électrique. Détails et conditions à offrechevrolet.ca.
Hey, Marie Wolf, le monde est petit, pareil.
Une perceuse sans fil, ça serait c'est que tu, ça? Bah, au pire, il y a Jetro au centre de tri.
Ben oui, au pire. Au pire, ta perceuse, elle va se briser dans le camion. Puis au pire, le lithium de la batterie va créer une réaction chimique au contact de l'air puis la faire exploser. Ça fait qu'au pire, ça pourrait mettre le feu au centre de tri, endommager les machines puis blesser les employés.
Ben tu sais, au pire. Au pire, je peux regarder si ça va dans le bac, hein?
Ce que vous mettez dans le bac a un impact. Contenant, emballage, imprimé, c'est tout. Un message de Bac Impact, la nouvelle référence en collecte sélective.
Que vous soyez un passionné de pickleball ou un marcheur enthousiaste, ne laissez pas l'inflammation articulaire vous ralentir. Peu importe l'âge ou le niveau d'activité, vous méritez de bouger sans douleur. Gynacol anti-inflammatoire soulage l'inflammation et les douleurs articulaires. Ses propriétés anti-inflammatoires, offertes par le curcuma, en font un produit naturel efficace mais doux pour l'estomac. Essayez-le. Gynacol anti-inflammatoire est en rabais à $21.99 chez Proxime jusqu'au 25 septembre. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
Gynacol, tu me fais du bien.
Vous avez une prescription pour un prélèvement? Vous avez besoin de conseils santé avant de partir en voyage? Vous devez mettre à jour votre vaccination? Pensez au groupe Efficience Soins infirmiers. Vaccination, prélèvement, santé, voyage et plus encore. À Le Bourgneuf, Charlebourg et Lévis, groupe Efficience.
Matelas Dauphin. Nous sommes l'un des plus grands fabricants de matelas au Québec. Notre force, fabriquer des matelas de qualité exceptionnelle à des prix imbattables. Nous les fabriquons, vendons et garantissons sans intermédiaire depuis 54 ans. Pendant le blitz du fabricant, économisez des centaines de dollars plus taxes payées sur tous les formats de matelas Alcove, dont le double en super spécial à $589.49. Livraison rapide et gratuite. Le blitz du fabricant dans tous les matelas Dauphin.
Les 19 et 20 septembre, c'est l'événement Milwaukee chez Outils Plus. La plus grande vente d'outils Milwaukee de l'année. Prix imbattable, promo exclusive, cadeau avec achat, démo et essai d'outils sur place. Outils Plus, boulevard Louis XIV. Outilsplus.com pour les détails.
Les gars, chez Coifferie International, on a tout ce qu'il faut pour prendre soin de vos cheveux et votre barbe. En septembre, bénéficiez de 20% de rabais sur les gels, pommades et pâtes coiffantes. Pas le temps de passer en boutique? Magasinez au coifferie.com. Coifferie International.
Vous manquez d'idées pour vos repas à la maison? Commandez en ligne les produits prêts à emporter de Normandin. C'est plus de 50 produits disponibles pour vos repas de tous les jours, livrés directement à votre porte. Sauce spaghetti, lasagne, pâté, pizza et même les produits pour le déjeuner. En plus, tout le mois de septembre, les desserts sont offerts à 15 % de rabais. Passez donc au comptoir pour faire vos provisions. Normandin, ça fait plaisir.
L'Académie Saint-Louis préscolaire et primaire, c'est le début d'un grand chapitre dans la vie de votre tout-petit. Yeah! Découvrez notre approche bienveillante au aslouis.com.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock?
Boulevard 102.1.
Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Mon invité de ce soir, Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile. Et Samuel Tremblay-Michaud, tantôt, pendant la pause, me parlait de Gilles Villeneuve. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu de mon vivant Gilles Villeneuve. Je me souviens de l'avoir vu se crasher. Est-ce que c'était live? Je pense pas. Mais c'est quelqu'un qui a marqué le Québec, ben, en fait, qui a marqué le monde, de la course en général.
Oui, 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 vraiment, c'est un monument de l'histoire automobile, de la course automobile. J'ai eu la chance de discuter hier pour RPM, on a discuté avec Mélanie Villeneuve.
J'ai 84 en mémoire, c'est ça? Gilles Villeneuve qui s'est tué?
82.
Tu dis 82,
ouais.
T'es bon, 82.
Oui, je pense que c'est ça.
8 mai 82.
Puis j'ai discuté avec Mélanie Villeneuve, sa fille, hier, parce qu'il y a un film qui s'en vient sur Gilles Villeneuve. Puis tu sais, on l'a dit, tu sais, monument au Québec, fine, mais dans le monde automobile, là, c'est incroyable de se dire qu'on a un pilote d'ici qui a fait autant de bruit à l'international. Ouais. Puis j'ai parlé avec sa fille hier parce qu'il y a un film qui s'en vient sur la jeunesse de Gilles Villeneuve. Comment ça s'est créé, ce personnage-là? Où c'est parti l'amour pour l'automobile. Puis elle me disait, c'est drôle parce que personne n'aimait vraiment les voitures dans sa famille. Lui, tu sais, son père aimait ça un peu. Il avait conduit ça sur les genoux de son père. Puis, tu sais, il avait comme vécu ça un peu via son papa. Mais il n'y avait pas nécessairement une famille de courseurs réputés. Il n'était pas nécessairement dans un environnement où est-ce que la vitesse puis l'automobile, c'est quelque chose qui l'animait.
C'est-tu la motoneige, eux autres?
Oui, la motoneige aussi, ouais. Ça a été vraiment très présent dans sa vie. Puis là, ce qu'on va voir dans ce film-là, puis je trouve ça vraiment important d'en parler, parce que c'est une belle production québécoise qui risque de passer à l'international, là, parce que Gilles Villeneuve a vraiment de l'intérêt partout dans le monde. C'est fait ici au Québec, des acteurs de chez nous, c'est produit ici, puis on va retracer vraiment les débuts de Gilles Villeneuve. Ça va vraiment être un film que j'attends avec impatience, comme je suis pas un gars de cinéma tant que ça. Mettons, j'aime ça que tu aies des films à la maison, cinéma pas tant. Je vais courir pour aller voir ce film-là au cinéma. Puis ça va sortir vers la fin 2025. On va avoir c'est une biographie, mais tu sais, romancée, là, un peu comme Ford versus Ferrari. Là. C'est un film où on va retracer des moments véridiques, mais il va y avoir aussi de la romance là-dedans. Puis on va même voir la Mustang Boss 351 de Gilles Villeneuve. La vraie va être dans le film, on va la voir. Puis on va voir l'amour aussi que Gilles Villeneuve avait pour Ford. Parce qu'il a commencé à courser avec une Ford Mustang 67 qu'il avait acheté en 69. C'était son premier véhicule, c'était un 289. Puis il a coursé avec ça au début. C'est là qu'il a fait ses premières mécaniques lui-même. C'est là qu'il a commencé à goûter l'automobile, des courses de drague. Puis c'est comme ça qu'il s'est fait connaître également dans le milieu. Fait qu'il y a vraiment une grosse amour avec la marque Ford qu'on va voir à travers ce film-là. Ford sont bons à faire des films puis nous donner envie d'acheter des Ford.
Ben oui. Est-ce que son fils va être dedans?
Son fils, je sais pas. J'ai comme pas eu accès à tous les détails. Ce que je peux vous dire, c'est la fin 2025. On devrait avoir ce film-là officiellement. C'est tourné à Saner, en plus, au Québec, sur la piste de course. Donc, toutes les scènes de course vont tourner ici. Puis ça risque d'être un gros film vers la fin de l'année prochaine pour les amateurs de véhicules. J'ai comme de l'impression que si c'est bien fait, là, c'est le même producteur qui a fait Louis Cyr. Tu sais, théoriquement, je pense qu'on devrait avoir une belle qualité de production en plus. Oui. Là. Fait que j'ai comme l'impression que ça va être un méchant bon, une bonne page d'histoire pour nous autres, les tripeux de char d'avoir ce film-là.
Ouais, puis il n'y avait rien à voir avec les pilotes d'aujourd'hui, tu sais, puis c'est sans rien leur enlever aujourd'hui, c'est d'excellents pilotes et tout ça, mais lui, c'était la victoire ou rien.
La victoire au rien, puis la témérité qu'il y avait derrière le volant, tu sais, c'était fou. Puis quand on y pense une seconde, Gilles Villeneuve a quand même gagné pour Ferrari en F1.
Oui.
Tu sais, c'est pas rien, là. Je sais pas si on réalise là, à quel point Ferrari, tu sais, dans le monde de l'automobile, c'est gros, puis c'est de l'argent, puis c'est l'Italie, l'histoire des courseurs, puis ouais. Gilles Villeneuve, t'es au volant, puis il a gagné. C'est fou, là, quand on y pense.
Ah, puis son fils a fait son bout de chemin aussi en F1. Là.
J'imagine qu'on va le voir dans le film, ou peut-être pas, je sais pas.
On sait pas avec Jacques.
T'es un peu up and down, hein?
On sait pas, tu sais. Il peut aussi bien bouder son père.
Je sais pas.
OK. Hey, on termine avec la Kia K4.
Oui, je l'ai terminé avec ça, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, des chroniques voitures accessibles pour nous, et puis je trouve ça le fun. La Kia K4, qui est la remplaçante de la Forte. Je comprends qu'en anglais, on peut dire K4, qui sonne quand même bien, mais K4, en français, c'est plus ou moins évident.
Kia K4.
La Kia K4. Ce véhicule-là va partir aux alentours de 26 000 $ pour la nouvelle génération. C'est grosso modo 2 900 $ de plus que la Forte actuelle de base, mais on est dans une nouvelle génération de véhicules qui est plus gros également.
C'est ça, elle n'est pas très compacte, là. Elle est assez longue.
Ouais, exact. Tu sais, c'est un véhicule qui va prendre la place aussi au niveau du paysage québécois, selon moi, parce que le look est là. Les technologies embarquées aussi vont être là, bien sûr. On devrait avoir un produit qui se manie bien, même mécanique qu'on connaît actuellement de la Forte. Donc, le 2 litres de base avec la IVT qu'ils appellent chez Hyundai, mais qui, dans le fond, c'est une CVT, là, je vous cache rien. Puis, j'appelle IVT chez Hyundai parce que c'est Hyundai qui possède aussi Kia. Là. Fait que c'est la même transmission qu'on met chez Hyundai et Kia. Donc, hâte de voir ce véhicule-là. On va l'essayer prochainement sur RPM. On va faire un premier contact dans quelques semaines de mon collègue Luc Olivier qui va aller faire ça. Puis j'ai hâte de voir son rendu sur le véhicule parce que, selon moi, des véhicules comme ça, autour de 26 000 de base, mieux équipés, avec des technologies de l'heure, une garantie de 5 ans, 100 000 km, qui vous permet de rester dans un budget louable. La consommation de carburant devrait théoriquement être bonne aussi. Je me dis, tu sais, les gens qui me courent après pour jouer un produit abordable, c'est le genre d'option que je vais peut-être avoir envie de vous référer. On va devoir attendre au niveau de la fiabilité, là. Mais en termes de véhicule puis d'idée derrière, de faire une voiture qui n'est pas nécessairement un VUS, qu'on assume que c'est une voiture, parce que souvent on fait des VUS qui sont déguisés en voiture.
Ouais.
Fait que là, on perd l'efficacité d'une voiture et l'efficacité d'un VUS. Là, on assume que c'est une voiture. Ça devrait être mieux planté sur la route. Ça devrait être plus agréable aussi à conduire. Il n'y a pas de transmission manuelle, malheureusement. On a annoncé la version hatchback qui est magnifique pour l'Amérique du Nord, mais pas pour le Canada encore. Donc, on a dit qu'on allait l'avoir aux États-Unis. J'espère que quelqu'un qui écoute l'émission ce soir, il va allumer. Là, je comprends pas pourquoi vous n'amenez pas la version familiale au Canada. On aurait une voiture compacte, familiale. On n'en a plus sur le marché. Là. Il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Là.
Le message est passé.
S'il vous plaît, là, ramenez-nous une familiale abordable. Je vais être le premier à en acheter une 12 la douzaine. Comment on dit ça? Là? 12 la douzaine? Là, je
vais 12 la douzaine.
En tout cas, je m'en achetais plein. Mais dans tous les cas, j'ai hâte de voir ce véhicule-là. Je ne vais pas trop m'énerver non plus parce que les concurrents sont sérieux. Toyota Corolla, Honda Civic, Nissan Sentra, que je parlais tantôt.
Oui.
Trois japonaises très sérieuses qui ont des bons argumentaires aussi, mais qui sont toujours un petit peu plus chères. Fait que si Kia arrive avec une formule plus abordable légèrement, je pense qu'ils vont avoir une bonne part de marché.
Samuel Tremblay-Michaud, on te suit sur RPM Web?
Absolument. Suivez les réseaux sociaux aussi d'RPM. Je suis présent de plus en plus. M'amuse, là, ben gros. Fait que,
ben oui, on le voit que tu t'amuses.
Venez voir ça.
T'as du fun. Un gros merci d'être passé. Je te souhaite de passer une agréable soirée, de même qu'aux auditeurs. Bon, on se reparle demain, nous autres, à partir de 10h avec Audrey Pinchot. Passez une excellente soirée. Ciao.
Marceau, le soir.
Ce dimanche 22 septembre, encourage le Rouge et Or. Dès 13h au stade TELUS, où le Rouge et Or affrontera le Vert et Or de Sherbrooke. Viens t'échauffer avec ta gang au tailgate d'avant-match Boulevard 102. Plusieurs prix à gagner, cadeaux Boulevard, nourriture et cartes cadeaux Laurier Québec. De plus, en passant la tente Boulevard, note l'indice du match et tu pourrais devenir finaliste pour le grand prix de 1000 $ offert par Laurier Québec à la fin de la saison. On se rejoint dimanche au stade TELUS.
Go, Laval, go!
Vous prenez une direction au hasard et roulez vers l'inconnu. Une remorque est attachée à votre Toyota Tundra qui la tire avec aisance. La suspension effleure les nids de poules parsemés sur la route. Quand soudain, le tonnerre se fait entendre. Oups, ça c'est mon estomac. Arrêtez de rêver et prenez le volant de votre nouvelle Toyota. Découvrez le Tundra, présentement en stock chez votre concessionnaire Toyota, et voyez nos offres sur achetermatoyota.ca.
Jusqu'au 14 octobre, c'est le mois de l'habitation chez Profab. Visitez nos sites de vente et courez la chance de gagner l'un des nombreux prix d'une valeur minimale de 1 000 $ chaque semaine. Discutez de nos promotions avec les conseillers sur place et économisez gros à l'achat de votre nouvelle maison. Détails au profab.ca.
OK, alors on commence avec les meilleures offres locales au meilleur prix. Choisis et négociez pour vous par mercado.fr.
Obtenez une boîte découverte de 3 repas d'une valeur de 135 $ pour 67,50 $ chez Farine et Basilic.
Pas jugé. Prochaine offre.
Procurez-vous une carte cadeau de 50 $ pour 25 $ chez Pizzédélic Cartier.
Pas jugé à monsieur, madame qui écoute la radio dans son auto, au boulot, n'importe où. Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
L'innovation, la performance, le savoir-faire. Ces principes qui guident la fabrication de chaque Lexus ne peuvent être pleinement compris qu'à travers l'expérience. Faites le plein de sensations avec des taux de location aussi bas que 0,9% pour 24 mois, incluant une réduction du taux de 2% à l'événement. De plus, obtenez jusqu'à 1 500 $ en crédit à la livraison sur les modèles sélectionnés. Offrez-vous cette expérience à l'événement 5 jours de Lexus du 17 au 21 septembre. Contactez votre concessionnaire Lexus.
Une nouvelle poutine à saveur country est arrivée chez Ben & Compagnie. Une poutine composée de frites ondulées, de fromage en grains du Québec, de cornichons, d'une tonne de bacon et du délicieux poulet Ben & Compagnie. Le tout enrobé de la sauce à côte levée traditionnelle. Un vrai rodéo pour les papilles.
On le sait que vous vous ennuyez déjà de nos belles voix. Ce sera pas long.
on vient.
C'est l'ouverture de notre 175e Maxi. Profitez de milliers de baisses de prix, dont le dindon Flamingo à 1,44 la livre, les raisins verts ou rouges sans pépins à 1,44 la livre et le 10 livres de carottes ou oignons du Québec à 2,99. Plus de rabais en circulaire et chez Maxi.
Air Transat présente deux amis qui découvrent Lyon pour la toute première fois.
Quelle exposition! J'adore l'impressionnisme.
C'était incroyable.
Bon, et maintenant?
Ben moi, je pense que je vais retourner à l'école et étudier l'art.
Moi, je parlais du souper.
Ouvrez-vous à un monde de découvertes. Réservez dès maintenant votre vol de cet automne pour l'Europe à partir de 639 $. Visitez airtransat.com. Les conditions s'appliquent.
Une bonne quenelle, ça tente-tu?
Air Transat, le voyage nous transporte.
Les 19 et 20 septembre, c'est l'événement Milwaukee chez Outils Plus. La plus grande vente d'outils Milwaukee de l'année. Prix imbattable, promo exclusive, cadeaux avec achat, démos et essais d'outils sur place. Outils Plus, boulevard Louis XIV. Outilsplus.com pour les détails.
Le hockey des remparts est de retour ce vendredi soir au Centre Vidéotron. Voyez les nouveaux chandails et les débuts du tout premier choix repêchage Maddox Dagenais. Ne manquez pas le match d'ouverture des remparts ce vendredi au Centre Vidéotron. Billets au rempart.ca.
Avant la fin de l'automne, je vais passer une dernière fin de semaine au camping, racler le terrain, vider la piscine, préparer la headset pour l'hiver, monter l'abri, magasiner l'équipement de hockey pour mon gars, prendre des cours de conduite pour ma fille, faire un tour au Saguenay, faire le ménage en cabanon, aller au port.
Vous êtes débordé cet automne. Laissez nos experts s'occuper de votre changement de pneus d'hiver. Planifiez votre rendez-vous en ligne avec les concessionnaires services certifiés Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac avant le 30 septembre et obtenez sans frais 3 mois d'accès au plan véhicule connecté OnStar ou de Sirius XM. Profitez de l'offre en prenant rendez-vous en ligne au monservicecertifié.ca.
La nouvelle programmation de Boulevard va faire jaser cet automne.
Il y a quelqu'un sur la hotline, allô Boulevard?
OK.
Rage Against le matin, l'open mic, le pit stop, Marceau le midi, Gravel dans le retour, Marceau le soir, le volume au max, le rock and chill, le boulevard du rock, le volume à planche. Boulevard 102.1, bon la semaine, la fin de semaine, qui t'informe sur ce qui se passe à Québec et ailleurs. Des gros dossiers comme les petites niaiseries.
Moi, je serai vous?
Je vous écouterai. Sans oublier le meilleur de la musique rock, de tes années grunge et pop-punk à aujourd'hui.
Non, moi, je serai nous? Je vous... Non. Maintenant, il faut nous écouter.
Bravo!
Oui! On est content de vous retrouver.
Pour vrai, on est content. J'espère que vous l'êtes aussi.
Boulevard 102.1.
C'est l'heure. L'heure que vos haut-parleurs redoutent. Voici Max Larouche, le volume au max.
Oh, ça, c'est du rock.